Géopolitique.
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. En 1967, entrait en vigueur le traité sur l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. 50 ans après, le monde a changé, les appétits se sont aiguisés et l'espace est devenu un enjeu géostratégique majeur. Alors qui va le contrôler dans les prochaines décennies? Qu'est-ce que le New Space, ce nouvel âge spatial dans lequel nous sommes entrés? Les puissances avides de suprématie se préparent-elles à transposer dans le cosmos les conflits qui les opposent sur la planète? Quelles sont ces armes spatiales que les États sont en train de mettre au point plus ou moins discrètement? On en débat avec nos trois invités. Xavier Pascaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la politique spatiale américaine, et vous avez publié Le Nouvel Âge Spatial de la Guerre Froide au New Space aux éditions du CNRS. Colonel Didier Masly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'état-major au commandement interarmée de l'espace. Merci d'avoir accepté notre invitation. À nos côtés également, Benjamin Guyot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste à l'Agence spatiale européenne. Xavier Pascaud, un petit retour en arrière d'abord. Est-ce que c'est grâce à la guerre froide que la conquête spatiale a connu ses heures de gloire, à commencer par le premier pas de l'homme sur la Lune?
Ah oui, tout à fait. L'espace est né dans ce contexte historique particulier qui était la guerre froide, c'est-à-dire qui opposait deux modèles politiques, deux modèles stratégiques, deux visions de la société finalement. Et ces modèles étaient en compétition au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte où ils se menaçaient l'un l'autre. Ils se menaçaient, c'était l'invention de l'arme nucléaire, l'invention du missile balistique, et donc on passait dans un autre monde. Et cette compétition s'est donc exacerbée, devenait quasiment vitale pour l'un et l'autre, et l'espace a été, je dirais, entraîné dans cette confrontation et est devenu une sorte de vitrine montrant la supériorité d'un modèle sur l'autre. Alors il y a eu deux conséquences, il y a eu un espace civil, avec cette première spectaculaire qui a été l'alunissage, l'atterrissage d'un astronaute américain sur la Lune, qui est le produit de cette course politique. Et puis il y a eu aussi un espace militaire très tôt, c'est-à-dire on a prévu bien de s'observer mutuellement pour garantir une dissuasion mutuelle assurée. Ça a été les deux moteurs du secteur spatial jusqu'à aujourd'hui.
Mais vous diriez que la recherche scientifique était alors un alibi?
Alors la recherche scientifique n'était pas un alibi, mais on ne peut pas dire dans les deux cas, russe, soviétique à l'époque et américain, quel était le principal vecteur. En revanche, la recherche scientifique a été le principal vecteur d'intérêt de l'Europe, bien des années plus tard, pour s'engager dans l'activité spatiale. Mais là encore, ça avait une valeur politique, ça permettait à l'Europe de cimenter, de fédérer des pays autour de valeurs communes.
Et c'est depuis la fin de la guerre froide que les ambitions militaires ont pris le pas sur la conquête spatiale, comme
alors,
on l'imagine?
On ne peut pas tout à fait dire ça, parce que l'importance du spatial militaire, comme on dit, a toujours été très présente. Il faut rappeler que le spatial était lié à la surveillance des arsenaux nucléaires. On redoutait un Pearl Harbor nucléaire, en quelque sorte, qui aurait été fatal cette fois-ci. Donc on a toujours mis beaucoup d'argent.
Oui, c'est la commission Rumsfeld, la commission américaine.
Oui, mais même bien avant. Il faut savoir que les premiers satellites espions, par exemple, ont commencé à prendre des photos en 1960. Ce qui est très très tôt, c'était des programmes à l'époque ultra secrets, mais qui étaient le soubassement industriel. Et je dois dire que, en fait, ce socle, si vous voulez, d'observation mutuelle, il existe toujours aujourd'hui. On a toujours des satellites pour s'observer, pour s'écouter, pour s'espionner, etc. Et en revanche, ce qui s'est ajouté depuis la fin de la guerre froide, c'est un espace militaire qui est beaucoup plus en relation avec les opérations elles-mêmes. Donc on avait un espace stratégique, essentiellement tourné vers le renseignement. Là, aujourd'hui, on a toujours cet espace renseignement, mais aussi un espace beaucoup plus, on va dire, au service des opérations militaires.
Colonel Masly, pour le grand public, l'espace aujourd'hui, c'est sans doute l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et son formidable ambassadeur qui est Thomas Pesquet, l'astronaute français. Est-ce que l'espace aujourd'hui, pour vous, les militaires, il est conçu comme un lieu potentiel de confrontation?
L'espace nous sert, à nous militaires, vraiment à appuyer les opérations militaires, comme le disait Xavier Pascaud. Depuis la fin de la guerre froide, nous avons véritablement fait effort pour développer les moyens spatiaux en appui des opérations militaires. Comme il le disait, tout d'abord à des fins de renseignement, avec le lancement du satellite Helios 1 au début des années 90, à l'issue de la guerre du Golfe. Mais déjà, nous utilisions les satellites SPOT, civils. Et comme il l'a dit également, à des fins de dissuasion, nous utilisions le satellite Helios 1, dont l'emploi était réservé à un cercle relativement limité au niveau central, politico-militaire. Et ce qu'on a observé, donc, au fil du développement des opérations militaires à l'issue de la fin de la guerre froide, c'est véritablement une démocratisation de l'emploi de l'espace. Et la tendance est à, justement, élargir cet emploi jusqu'au niveau tactique, jusqu'aux combattants, pouvoir donner accès, par exemple, à un combattant isolé sur un théâtre d'opération, à une image spatiale, de manière à pouvoir préparer une mission.
Donc les opérations spatiales de la France ont pour but essentiellement d'observer, de surveiller, de protéger ?
Tout à fait. La priorité de la France, c'est vraiment de maintenir une capacité autonome d'appréciation de situation dans un premier temps, et puis de capacité autonome de décision et d'action. C'est sa priorité.
Benjamin Guyot, la France est aussi partie prenante du programme de surveillance spatiale lancé par la Commission européenne en 2015. Comment ça se passe, le lien entre l'Europe et la France ?
Le problème qui se pose avec l'Union européenne, c'est qu'elle n'est pas partie au traité sur l'espace de 67. La France y est, ainsi que la plupart des États membres de l'Agence spatiale européenne, mais pas l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas non plus fait de déclaration d'adhésion à ce traité. Donc, même si la France respecte les principes du traité 67, qui pose que l'usage d'armes de destruction massive dans l'espace est interdite, elle peut quand même faire usage de l'espace, comme il a été exposé, pour placer des satellites d'observation. L'Union européenne, maintenant, devrait servir, si possible, à centraliser la demande institutionnelle et la demande militaire européenne. Mais ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, parce qu'il n'existe pas de politique centrale ou commune de défense en Europe. C'est le principal handicap de l'Europe par rapport aux États-Unis. C'est cette politique de défense qui est répartie entre les différents États membres de l'Union européenne.
Est-ce que pour vous, le traité de 1967 est obsolète, dépassé ? Est-ce qu'il faudrait l'amender ou rédiger carrément un autre traité ?
Alors, c'est ce que beaucoup pensent. Je ne pense pas qu'il est vraiment obsolète. Il y a pas mal, finalement, il y a plusieurs outils en matière de droit de l'espace. Il y a le traité de 67, il y a la convention de 72 sur la responsabilité, il y a le traité sur la Lune de 79, excusez-moi. Mais il faudrait remettre à jour ces traités, surtout pour traiter aujourd'hui de l'aspect commercial de l'espace. Pour les aspects de défense, ils sont relativement bien traités dans les outils dont je vous ai parlé. On en parle aujourd'hui, mais bon, il a été relativement facile, aisé de trouver un accord entre les États en 67. Il a été plus difficile par la suite de trouver un accord parce que plus l'aventure spatiale se poursuit, plus on clarifie les intérêts de chacun et plus il est difficile de s'engager. Donc bien sûr, une mise à jour serait souhaitable, mais elle est plus ardue aujourd'hui qu'avant.
Vous êtes d'accord, Xavier Pascal ?
Oui, tout à fait. Enfin, je crois qu'on vit aujourd'hui une nouvelle dynamique. Je ne vais pas dire un nouvel âge spatial, mais une nouvelle dynamique, en tout cas, qui crée des intérêts, qui cristallise des intérêts distincts, qui font qu'aujourd'hui, c'est très difficile de s'accorder sur un texte commun. Alors, en particulier, un traité, et ça, c'est pas seulement pour l'espace, au passage, en particulier sur un traité, un certain nombre de puissances qui, aujourd'hui, sont très réticentes à signer des traités, qui engagent juridiquement, qui sont des instruments très contraignants d'un point de vue juridique.
Et qui seraient même enclines à s'en désengager, comme Donald Trump.
On l'a vu, voilà, mais on l'a vu aussi, par exemple, lors du désengagement de George W. Bush, par exemple, du traité SALT II, etc. En revanche, il y a eu quelques efforts pour introduire, on va dire, une nouvelle notion, des codes de conduite, qui sont plus des accords politiques, moins engageants juridiquement. Mais même là-dessus, on vient de faire l'expérience sur le spatial, parce qu'on voit bien qu'il y a des tensions qui peuvent naître, donc ce serait bien qu'il y ait un peu plus de transparence, de moyens de communiquer. Eh bien, même ça, ça a été difficile. En fait, aujourd'hui, c'est un peu à l'arrêt.
On va prendre un exemple concret, colonel Masly. Le traité, par exemple, si j'ai bien compris, ne fixe pas les règles de distance de sécurité dans l'espace. Ça, c'est un problème.
Pour nous, c'est pas véritablement un problème.
Mais par exemple, si un satellite s'approche trop près d'un autre, comment juger si l'intention est hostile ou pas ?
Pour nous, ce qui est important, c'est de savoir si, en effet, il va porter atteinte à notre propre satellite. Donc, c'est pour ça qu'on a des moyens de surveillance de l'espace, de manière à observer la trajectographie de manière fine grâce au système GRAV qui observe dans les franges entre 400 et 1000 km d'altitude, de manière à pouvoir voir un petit peu si un objet s'approche dangereusement en termes d'orbite d'une autre. Mais la notion de distance n'est pas véritablement importante. Ce qui est important, c'est la trajectoire. Nous avons accès donc à des données américaines qui sont d'ailleurs en accès libre pour tout le monde. Et puis nous affinons ces données grâce au radar GRAV, comme je le disais. Et en fonction de ça, nous pouvons effectuer, comme nous le faisons des fois, des manœuvres d'évitement de nos satellites.
Benjamin Guyot, est-ce qu'il faudrait revoir les règles d'engagement dans l'espace, ou les définir en tout cas, si elles n'ont pas été définies dans ce traité ?
Pour revenir à ce que vous disiez avant par rapport à la distance entre satellites, il y a maintenant une collaboration quand même entre certains États qui ont des activités spatiales pour justement guider leurs satellites et éviter surtout les interférences. Parce que on n'imagine pas un satellite percuter volontairement un autre satellite, enfin ça peut arriver, mais ce serait une agression assez particulière. Ce qui arrive plus souvent, c'est surtout des perturbations et, entre les fréquences utilisées. On parle parfois d'une sorte de code de la route ou de code de conduite dans l'espace, principalement pour éviter les débris spatiaux. Hein. C'est en discussion, mais pour les débris par exemple, c'est plus... du droit mou, comme on le dit, que du droit dur, comme des traités qui régissent l'usage des satellites afin d'éviter les débris. Alors bien sûr, ce serait souhaitable, mais on se rend compte qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord les traités qui établissent les grands principes, et il faudrait qu'on passe à un stade de directive ou de règlement d'exécution pour déterminer les détails concrets et techniques de l'usage des satellites ou des lanceurs. C'est le cas par exemple avec la loi spatiale, où il y a une loi, et puis il y a aussi des règles d'application un peu différentes. Mais on est vraiment aujourd'hui, d'abord... On a des acteurs privés qui arrivent dans l'espace aujourd'hui, et ça c'est le principal défi. On ne sait pas si c'est les passagers privés qui iront dans l'espace seront également des envoyés de l'humanité. C'est comme ça qu'on qualifie pour l'instant les astronautes, spationautes, cosmonautes, dans le traité, et taïkonautes, les Chinois on les appelle taïkonautes. On conçoit ces voyageurs dans l'espace comme des envoyés des États, donc comme des envoyés de l'humanité. Maintenant, est-ce que ce sera la même chose pour les partenaires privés? Est-ce qu'on peut exploiter les ressources dans l'espace? Ça, ce sont vraiment les questions qu'il faut traiter aujourd'hui. Alors oui, peut-être des règles d'usage, une sorte de code de la route, ce serait bien. Malheureusement, j'ai peur que...
Est-ce qu'il faudrait des aiguilleurs de l'espace comme on a des aiguilleurs du ciel?
Alors, comme il a été dit, effectivement, les États-Unis le font un peu aujourd'hui. Ce serait bien mieux, bien sûr, que ce soit une activité poursuivie par une agence internationale et non pas par un pays en particulier. Seulement, il faudrait que cette agence ait des ressources à sa disposition, et les ressources sont lancées par les États, principalement États-Unis, Europe, Russie, Chine. Donc, il y a un problème entre les ressources et l'autorité en question. Et il est clair qu'aucun État qui a mené des activités spatiales n'est prêt à mettre totalement à disposition et de manière totalement transparente ses ressources à une organisation internationale.
Xavier Pascoe, vous vouliez intervenir?
Oui, non, tout à fait, pour souligner ce qui vient d'être dit. On a aujourd'hui effectivement un nouveau défi qui est celui qu'on appelle le contrôle du trafic spatial. Il y a cette idée qu'il y a un trafic spatial de plus en plus dense. On a parlé des débris, mais il y a aussi ce qui se profile à un horizon très court, ce sont des constellations, ce qu'on appelle des constellations de satellites, de plusieurs centaines, voire pour certaines peut-être de plusieurs milliers. Et puis avec des satellites qui vont circuler de plus en plus, avec des moyens qui vont devoir desservir ces constellations. On commence à habiter finalement spatial.
Et des satellites de tailles très diverses,
même au-delà des machines à laver en grosseur, peut-être la taille d'un bus parfois, et puis ça va jusqu'à un cube de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Donc entre les deux, voilà, tout est permis. Et donc on se rend bien compte que tout ça va devoir coexister. On sort d'un contexte où l'espace était d'abord gouvernemental. Seulement les États envoyaient des appareils dans l'espace. Aujourd'hui, on a des États et puis on a de plus en plus d'acteurs privés, comme il vient d'être dit. Donc tout ça, on voit bien qu'il y a un besoin d'harmonisation et de toilettage de tout ça. Mais alors là, le diable et dans les détails, justement, on disait que les règlements d'exécution, oui, les grands principes, on est tous d'accord. En plus, on est tous interdépendants dans l'espace. C'est-à-dire, quand un fait une bêtise, tout le monde en pâtit, y compris celui qui a fait la bêtise, d'ailleurs, en passage. Sauf qu'à partir du moment où on veut régler le détail, on n'est plus trop d'accord sur la manière de le régler. Et là, c'est là où se situent maintenant les rapports de force, qui sont des rapports de force étatiques, mais aussi des rapports de force, maintenant, industriels, commerciaux, etc. Ça vient se surajouter. Et donc, ça complique un peu la situation.
Alors, est-ce que pour vous, donc la révolution dans le spatial, c'est le fait que maintenant le numérique soit appliqué au spatial, c'est ça le fait fondamental?
Moi, je pense que le fait fondamental, c'est qu'aujourd'hui, il existe en dehors du spatial un monde numérique, effectivement, qui est né il y a, on va dire, une vingtaine d'années. En gros, Google, il y a 30 ans, n'existait pas. Aujourd'hui, Google, Amazon et d'autres sont des véritables puissances financières qui, pour leurs propres affaires, trouvent dans le spatial un certain intérêt. Ils n'ont pas de vision spatiale proprement dite. En revanche, ils ont un intérêt à utiliser avec d'autres choses des moyens spatiaux. Et à partir de là, vous avez de nouvelles puissances financières qui se sont emparées d'un certain nombre d'activités spatiales et qui veulent les faire fleurir. Et ça crée un équilibre tout à fait nouveau. Je vous le disais tout à l'heure, on avait presque c'était sanctuarisé, c'était quelque chose de régalien, de gouvernementalement pur, on va dire. Et maintenant, on a quelque chose de mixte avec des intérêts privés qui ne sont pas nécessairement superposables aux intérêts étatiques. Donc ça, effectivement, c'est tout à fait nouveau.
Colonel Massly, cette arrivée d'acteurs privés dans la conquête de l'espace s'est produite d'abord aux États-Unis, avec donc la privatisation du marché des lanceurs. Comment vous l'avez vécu côté militaire en France?
Mais en fait, nous, on voit ça à la fois d'un bon œil et d'un mauvais œil. d'un bon œil dans le sens où cette concurrence exacerbée fait que ça a tendance à faire chuter le coût des programmes spatiaux. Avec la miniaturisation, par exemple, des satellites, forcément, quand vous devez lancer un satellite qu'il pèse moins lourd, le coût du lancement est moins important. La concurrence également en termes de lanceurs, avec la réutilisation d'étages par Elon Musk, par exemple, sur SpaceX, fait que
le milliardaire sud-africain, donc le patron de SpaceX.
Voilà, ça va certainement générer une baisse des coûts de lancement. Donc pour nous, la défense, ce sont de bonnes nouvelles, dans le sens où ça risque de réduire le coût des programmes spatiaux et de les accélérer également. Parce que nous, ce qui nous importe aussi, c'est que quand on définit un besoin militaire, c'est que le système n'arrive pas trop tard. En revanche, comme ça a déjà été dit, banalisation de l'accès à l'espace fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de satellites, de mini-satellites, et donc avec des risques de collision à la clé. Et donc ça signifie pour nous qu'il faut véritablement pouvoir maîtriser notre capacité de surveillance de l'espace, qu'elle soit la plus fine possible, et puis également essayer d'avoir une certaine résilience de nos capacités vis-à-vis de tous ces risques de collision.
Donc on en revient au problème de la régulation, de la circulation dans l'espace, en fait, Benjamin Guyot.
Oui, absolument. Et avant, vous parliez de la privatisation, en fait, de la privatisation des activités spatiales, et d'arriver d'abord avec des acteurs privés dans le domaine des communications. Donc vous parliez du numérique. Ça fait déjà quelques temps maintenant que pas mal de grands opérateurs de satellites sont privés. Maintenant, effectivement, arrive la privatisation des lancements, mais c'est tout à fait nouveau, hein, et c'est un phénomène d'abord américain, parce que on ne le connaît pas en Europe, et ça arrive effectivement, on parle du numérique, mais en fait, ce sont ceux qui ont fait fortune dans le numérique qui arrivent sur le secteur des lanceurs, pour leur intérêt, mais aussi parce que ils ont conscience que la croissance, aujourd'hui, se trouve dans l'espace. Il y a de la place, il y a des ressources, mais on a la peine à y accéder pour l'instant. On sait relativement bien faire des lanceurs, d'ailleurs, les lanceurs que exploite Elon Musk, le directeur de SpaceX, Monsieur Bezos, le directeur d'Amazon, ainsi que Richard Branson. Patron de Virgin. Ils utilisent des technologies relativement connues. Ils font pas vraiment de développement. Donc, ils réutilisent aujourd'hui ce qui a été développé par le secteur public pour avoir une activité privée de lancement, parce qu'ils pensent que dans l'avenir, il y aura de la croissance dans l'espace. Et ils ont raison. Alors, bien sûr, il faudrait revoir la régulation pour pouvoir correctement encadrer ces acteurs privés. Mais le fait est que une fois qu'ils se trouvent dans l'espace, ils sont hors toute juridiction. L'espace, c'est comme la haute mer, sauf que bien sûr, il y a une dimension différente. Moi-même, je vous dis, comme juriste, je n'ai pas vraiment la réponse à une régulation des acteurs privés et publics dans un espace sans juridiction qui est infini. Il y a vraiment une réflexion assez profonde à pousser, qui a déjà été d'ailleurs menée par beaucoup. Mais pour l'instant, le principe est que les États ont leur juridiction sur les vaisseaux spatiaux qui sont dans l'espace, et que cette juridiction s'applique bien sûr aussi aux acteurs privés qui partent d'un État, donc qu'on appelle État de lancement.
Xavier Pascaux, est-ce que vous craignez par exemple le développement de programmes civils qui serviraient de couverture à des objectifs militaires? Est-ce qu'il faut le craindre, ça?
Le craindre, oui, en tout cas, on le constate, c'est-à-dire de couverture. Ce qu'on constate, c'est, le colonel Masli disait tout à l'heure, parlait de dualité. Alors, c'est le mot un peu à la mode dans ce secteur. La dualité, c'est que on constate que la technologie spatiale, en fait, elle s'utilise aussi bien au plan militaire qu'au plan civil. Et bien souvent, un satellite va être utilisé par deux types d'acteurs en commun, en fait. Donc ça, c'est pas tout à fait nouveau. Je dirais que le point nouveau, pour me référer à ce qui vient d'être dit, on a quand même, enfin, moi, il me semble qu'il y a un point particulier avec ces nouveaux développements, quel problème de l'appropriation de l'espace. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'espace est un bien commun, c'est un bien commun de l'humanité. Et là, on se rend compte que, parce que on va avoir des intérêts commerciaux, des intérêts privés, des intérêts financiers, des intérêts gouvernementaux qui y sont associés de plus en plus importants, on va avoir tendance à, alors je vais utiliser un barbarisme, à territorialiser un peu l'espace. C'est sans doute une perspective possible. Et je prends un exemple, alors on n'en est pas là encore, mais il y a déjà des entreprises qui s'intéressent, par exemple, c'est exploiter les astéroïdes. On parle d'exploitation minière dans l'espace, exploitation de ressources, etc. Donc on sait bien que ça, si on exploite, on s'approprie. Ça, c'est sans doute un point, alors encore à très long terme, mais qui est sans doute un peu problématique.
On va y revenir dans la seconde partie de l'émission. Colonel Masli, Benjamin Guyot, Xavier Pascaux, on va faire une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à discuter de l'espace comme enjeu stratégique majeur.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Suite de géopolitique, qui va contrôler l'espace dans les prochaines décennies? En quoi la donne a-t-elle changé depuis l'arrivée d'acteurs privés venus d'Internet et des nouvelles technologies? Dans la course aux étoiles, les États se préparent-ils à un conflit dans le cosmos? On en débat avec nos trois invités. Xavier Pascaut, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Le colonel Didier Masly, chef d'état-major au commandement interarmé de l'espace. Et Benjamin Guyot, juriste à l'Agence spatiale européenne. On parlait tout à l'heure du marché des lanceurs. Une fusée Falcon 9 de la société SpaceX, qu'on a cité plusieurs fois, a mis récemment en orbite un exemplaire du fameux drone spatial américain X-37B. Xavier Pascaut, le cosmos, est-ce que c'est vraiment un nouvel Eldorado pour les acteurs de la Silicon Valley, ou est-ce que c'est une lubie pour milliardaires?
Alors, là, vous faites référence à ce qu'on appelle l'espace nouveau ou le New Space aux États-Unis.
Voilà.
Effectivement, je soutiens que, et en fait, il y a des New Space en réalité. On voit différentes approches par le secteur privé des activités spatiales. Vous avez effectivement tout ce qui concerne le lancement, et vous venez de faire référence au lancement de cette fameuse navette automatique dont on se demande qu'elle fait, qui appartient à l'armée américaine, et qui a été lancée par Falcon 9, donc un lanceur privé appartenant à ce fameux milliardaire Elon Musk. Là, on voit très bien que le New Space est quelque chose qui se branche en direct, je dirais, sur la commande publique, et qui bénéficie des énormes crédits américains, notamment du Pentagone, pour faire fonctionner son activité. Il se trouve qu'Elon Musk bénéficie aussi, par exemple, des fonds de la NASA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le transport de fret vers la station spatiale se fait aujourd'hui aux États-Unis exclusivement à partir de moyens privés. Donc je dirais qu'il y a là un fonctionnement assez classique du secteur privé qui bénéficie de la commande publique. Et puis vous avez à côté de ça un certain nombre d'entreprises, et SpaceX n'y est pas étrangère non plus, ou Amazon, etc., qui vont voir aussi dans l'utilisation de l'espace un gain pour leurs propres activités et vont financer des choses, par exemple l'installation de satellites, de télécommunications, des choses comme ça, dans l'espoir de faire du business, de gagner de l'argent. Et tout ça coexiste finalement. Et tout ça, c'est l'idée d'utiliser la commande publique pour pouvoir réinjecter des fonds dans une activité dont on espère qu'on va tirer des gains dans le cadre d'une activité privée. Donc tout ça se marie et il y a une espèce de mélange entre argent public et argent privé, si vous voulez, avec beaucoup d'argent du côté privé, parce qu'on a ces Google, ces Amazon, qui sont des véritables puissances financières internationales aujourd'hui, eh bien, ce mélange relance effectivement une activité spatiale sous une forme nouvelle qui n'est plus la forme gouvernementale dont on parlait jusque-là, mais qui est une forme mixte. D'ailleurs, les gouvernements essayant de tirer parti eux-mêmes de cette espèce d'élan privé en se branchant, je dirais, en faisant le passager clandestin dans certains programmes, en espérant le faire en tout cas.
Benjamin Guyot, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de SpaceX européen? On n'a pas assez de milliardaires branchés espace?
Je pense qu'on a aussi des mégalomanes en Europe. Mais non, on n'a pas d'abord les mêmes milliardaires effectivement qui veulent s'investir dans le spatial. On n'a pas non plus de législation propre à permettre la création de multiples ports spatiaux en Europe, comme c'est le cas aux États-Unis. Mais on n'a pas non plus simplement le territoire, parce qu'il y a la place aux États-Unis pour mettre ces ports spatiaux. En Europe, on pourrait imaginer peut-être dans le nord de l'Europe avoir plus de place pour poser ce genre de choses. Mais il faut se rappeler que pour avoir un port spatial intéressant, il faut qu'il soit le plus proche possible de l'équateur pour pouvoir bénéficier de la force de rotation et puis économiser ainsi du carbone. Donc il y a des aspects techniques, il y a aussi simplement peut-être une culture de la privatisation qui est plus inscrite dans l'ADN américain qu'en Europe. Et puis après, en Europe, les lanceurs sont développés d'abord par l'Agence spatiale européenne, après en fin de développement, ils sont placés en exploitation. C'est le cas avec Arianespace qui exploite trois lanceurs différents que sont Vega, Soyuz et Ariane 5. Ce sont des lanceurs extrêmement performants, Arianespace est très qualifié et il n'y a pas non plus de place pour d'autres concurrents parce que le marché est finalement assez étroit. Donc nous sommes tous favorables à la naissance de ces entreprises de lancement aux États-Unis, mais la question se pose quand même, est-ce qu'elles vont toutes être rentables? Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont disparaître dans le futur? Parce que il faut avoir une demande suffisante. L'avantage aux États-Unis, c'est que ces entreprises peuvent se fonder sur une demande importante du Pentagone, donc du marché institutionnel et de défense américain. En Europe, on n'a pas la même demande constante, donc ça ne permettrait pas à un industriel européen qui veut se lancer dans les lancements d'avoir une ressource garantie par an. Donc c'est pour ces raisons qu'on n'a pas la même structure.
Alors, je vais revenir à Elon Musk parce que c'est un personnage quand même. Xavier Pascaut, lui, son rêve, c'est de voir l'homme s'implanter sur Mars.
Bon, l'histoire de SpaceX, c'est une biographie qui a été écrite déjà sur Elon Musk, qui est un homme jeune encore pourtant. L'histoire de SpaceX, c'est Et la raison d'être pour lui de SpaceX, c'est d'aller sur Mars, et c'était d'envoyer même une souris sur Mars dans un premier temps, et d'envoyer des êtres vivants ensuite sur Mars. Alors effectivement, il fait aujourd'hui état de sa volonté d'installer l'homme sur Mars. Il y a eu des grandes présentations internationales qui ont été faites récemment, où on parle d'envoyer 1 million de personnes, avec plus de 10 000 lancements d'énormes fusées qui enverraient 100 personnes par 100 personnes, etc. Donc il a cette volonté de faire une colonie. Alors d'abord, premier point, lui-même n'est pas sûr de vouloir y aller. Il est un peu...
Les autres,
voilà.
Oui.
Les autres, lui, mais lui, il n'est pas sûr de vouloir y aller. Et puis, on a le sentiment que c'est surtout, je dirais, un discours d'habillage pour garantir la pérennité de son activité. C'est-à-dire qu'il a effectivement aujourd'hui une place particulière parce que jusqu'à présent, finalement, quand on regarde bien, vous aviez des institutions très précises qui étaient capables d'avoir une vision et des capacités. Ça s'appelait des agences spatiales. Et aujourd'hui, ça, c'est tout à fait nouveau, c'est révolutionnaire dans le secteur. Il y a d'autres types d'entités qui ont ça, une vision et des capacités. Ce sont ces grandes entreprises privées de type SpaceX. Et qu'est-ce que fait Elon Musk quand il dit ça? Finalement, il se dote d'une vision qu'on peut contester, mais en tout cas, il se met en fait à l'égal des agences spatiales. La vraie question que pose Musk, finalement, en se posant comme ce type d'acteur, c'est quelle va être ma future relation avec les agences spatiales? Comment on va collaborer? On parle de collaboration entre les agences spatiales et les entreprises privées. Jusqu'à présent, les entreprises privées étaient des sous-traitants des agences spatiales et répondaient aux demandes programmatiques gouvernementales. Et on voit bien que c'est aussi un rapport de force.
Donc c'est un rêveur très pragmatique. Et vous, l'espace comme plan B pour les terriens? Ça vous laisse sceptique?
Alors, il y a toujours deux écoles, si vous voulez, sur l'activité spatiale. Nous avons des crises, nous vivons des crises en tant que civilisation, en tant que société. Quand on discute finalement dans le secteur spatial, on se rend compte que les gens sont partagés entre deux points de vue. Il y a le point de vue l'espace comme outil, c'est-à-dire que je vais utiliser les satellites pour mieux gérer ma planète et regarder les réseaux de transport d'énergie, etc. Donc l'espace, ça répond à un problème. Ou vous avez des gens qui immédiatement disent l'espace c'est une solution et donc je vais aller chercher ma ressource à l'extérieur, je vais aller chercher l'énergie à l'extérieur, je vais faire de l'exploitation minière. Et à partir de là, vous avez vraiment deux points de vue, je dirais, ontologiquement différent, vraiment deux visions différentes. Le principe d'envoyer l'homme dans l'espace, c'est un principe de découverte et d'expansion du domaine de l'humanité. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quand même qu'il sera très difficile d'aller vers Mars et d'y vivre. Ça reste compliqué. Et que d'une certaine manière, ce dont on pourrait se procher, c'est ce qu'on appelle les planètes extrasolaires, les planètes très lointaines, dont on commence à voir qu'il y a des terres peut-être qui existent auprès de leurs
les
étoiles.
Les exoplanètes, c'est
ça ? Les exoplanètes, mais ça, c'est très loin. Et donc finalement, quel est l'avenir de l'homme dans l'espace? C'est une vraie question. Est-ce que ça veut dire construire nous-mêmes des infrastructures dans lesquelles nous vivrons? Donc tout ça reste quand même extrêmement flou. Donc l'espace aujourd'hui, et je pense que l'Europe est vraiment sur cette ligne-là, c'est d'abord un espace outil qui nous permet de mieux gérer la planète. C'est d'abord ça, et c'est la raison pour laquelle, si les États-Unis eux, sont dans une sorte de vision un peu messianique, dans laquelle ils ont toujours été leur destinée manifeste, l'idée de frontière,
voilà, la nouvelle frontière,
etc. Nous en Europe, on est sur un mode plus, je dirais, rationnel. Peut-être cartésien sur l'utilisation de l'espace.
Alors, il y a des pays comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil et surtout la Chine qui ne font plus de la figuration désormais dans l'espace. Pourquoi se lancent-ils eux aussi dans cette conquête de l'espace?
Alors, on a le sentiment que, en fait, la Chine est en train de cocher la case de la grande puissance. L'espace est quand même associé au statut de grande puissance. Ça a été le cas dans les années 60, 70. Il y a deux grandes puissances qui ont tous les attributs de la puissance spatiale capable d'envoyer des hommes dans l'espace. Et la Chine, parce que c'est une grande puissance et qu'elle veut le montrer, elle doit cocher cette case d'envoyer des hommes dans l'espace. Elle dit même qu'elle va installer des hommes sur la Lune, éventuellement, etc. On est dans, je dirais, la vision politique de la Chine qui se pose en grande puissance pour l'avenir. L'Inde a aussi sans doute cette volonté de faire un peu plus que de l'espace pour du développement, c'est se poser aussi en grande puissance. Et le Japon, eh bien, alors le Japon est un peu plus, je dirais, un peu plus distant de ça. Moi, j'associerais volontiers ces projets-là à une posture politique.
Benjamin Guyot, je vais revenir au pactole que représenteraient les ressources minières dans l'espace. Est-ce que ce rêve de certains d'exploiter les ressources des astéroïdes est concret et plausible? À quelle échéance ça peut se faire?
Concret, on sait qu'il y a des ressources, il y a des États qui ont déjà mis en place des législations pour permettre cette exploitation, comme
les États-Unis, le Luxembourg.
Le Luxembourg, justement, ouais. Le Luxembourg est intéressant parce que c'est un petit État, mais il a mis en place ce genre de choses, donc il est propre après à recevoir des sociétés qui voudraient poursuivre ce genre d'activité.
Mais ça n'a gêné personne au niveau européen, par exemple, cette loi au Luxembourg?
Si, bien sûr.
C'est entré en vigueur en juillet dernier, hein, faut le rappeler.
Si, bien sûr, parce que justement, on se pose la question de l'appropriation de l'espace, et comme c'était dit par Xavier Pascaud, les traités le prohibent. Après, bien sûr,
oui, parce que dans le traité de 1967, il était stipulé que l'espace n'appartenait à personne.
L'espace n'appartient à personne, il doit être utilisé, exploré uniquement pour l'intérêt de l'humanité. On parle de l'exploitation de l'espace uniquement dans le traité sur la Lune, qui est le plus récent et qui était moins soutenu. il y a des questions légales et des questions techniques et des questions économiques. Pour les questions légales, finalement, il suffit qu'on se mette d'accord et puis on pourra aller de l'avant. Moi, je ne pense que l'exploitation minière, par exemple, d'un astéroïde ou de l'espace serait quand même possible également, du moment qu'on n'en prive pas les autres États, et du moment que l'exploitation ne vise pas à épuiser les ressources de l'espace. Mais bien sûr, l'espace étant ce qu'il est, ça semble peu probable. Après, il y a les questions économiques. Il faut que l'exploitation soit rentable, d'où le besoin de réduire les coûts de services de lancement. Et puis, après, il y a des questions techniques. On sait envoyer des lanceurs, on sait aller loin, on a vu qu'on pouvait placer des engins sur des astéroïdes, ainsi que sur la Lune, mais pour l'instant, on n'a pas de système rentable qui permette encore d'exploiter l'espace. Mais personnellement, moi, je le souhaite quand même, parce que je pense que croître dans l'espace, ce ne sera pas la solution à tous nos problèmes sur Terre, mais c'est presque une évolution naturelle. Soit on disparaît ici, sur notre Terre, soit on trouve le moyen de perdurer, et si on perdure, on s'étend dans l'espace. Ça me paraît être un champ de croissance idéal. Mais bon, on n'y est pas encore.
On a parlé tout à l'heure de la prolifération des satellites miniaturisés. Ça veut dire aussi qu'il y a un énorme marché du traitement des débris spatiaux aussi. Vous, côté militaire, comment vous gérez cette menace potentielle que représentent les quelques 7000 tonnes de débris qui tournent au-dessus de nos têtes, colonel Masly?
Comme je vous le disais tout à l'heure, donc, nous travaillons en relation avec la base de données américaine qui s'appelle SpaceTrack, qui est mise à disposition en source ouverte. Et puis ensuite, le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, avec lequel nous travaillons, suit donc les orbites des différents débris, des satellites, etc. Et grâce à notre radar grave sur les orbites basses, nous affinons donc les trajectoires de ces débris, et ça permet ensuite au CNES de faire les manœuvres d'évitement aux satellites. C'est un dialogue défense-CNES en relation avec les Américains.
Mais vous reconnaissez que les satellites aujourd'hui, puisqu'ils sont vitaux pour les États, ce sont des cibles vulnérables ?
Pour les forces armées françaises, il est vrai que lorsque l'on mène une opération militaire, les moyens spatiaux sont devenus vraiment prépondérants pour le succès de ces opérations. Même si nous nous entraînons également à mener des opérations en essayant de nous priver de ces moyens spatiaux au cas où il y aurait un problème. Mais ceci étant dit, les capacités spatiales sont vraiment en effet prédominantes pour le succès des opérations militaires. Quand on voit donc ce qui se développe dans l'espace, des capacités de rendez-vous dans l'espace, Xavier Pascaud évoquait tout à l'heure la Station Spatiale Internationale, un certain nombre d'États maintenant maîtrisent les capacités de rendez-vous en orbite. Et donc quand vous avez des capacités de pouvoir venir éventuellement rejoindre notre satellite, ben il faut être capable nous de se prémunir contre une éventuelle menace, et donc pouvoir avoir une capacité fine d'observation pour pouvoir arriver à éventuellement détecter une possibilité d'agression, caractériser l'agresseur. Voilà, on en est là actuellement.
Avec quel pare-feu ?
Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment d'améliorer encore nos capacités d'observation, de surveillance. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un développement des nanosatellites, des mini-satellites, des constellations de plus en plus importantes. Et donc, il faut pouvoir être capable, justement, de discriminer tous ces objets spatiaux, leur orbite précise, de manière à pouvoir protéger nos propres moyens.
Xavier Pascaud, est-ce qu'on constate un développement actuellement d'armes nouvelles, d'armes spatiales, parmi les puissances qui sont intéressées par la conquête spatiale?
Oui. Ouais, il y a des programmes de recherche qui ne sont pas nouveaux et qui sont regroupés sous le vocable armes anti-satellites. Les armes anti-satellites, il faut savoir que dès que l'espace est né, les deux grandes puissances qui étaient en confrontation, ils ont imaginé d'avoir évidemment des moyens pour détruire les satellites adverses. Sauf que le contexte n'était pas propice, puisqu'on ne cherchait pas trop à se détruire, on cherchait plutôt à s'observer mutuellement. Il y avait une sorte de gentleman agreement, on va dire, non dit, implicite, etc. Il y a eu quand même déjà, il faut le savoir, dans les années 60, 70, puis 80, des campagnes de tests des deux côtés, etc. Et puis il y a une grande nouveauté, c'est en 2007, le 11 janvier 2007, un test opéré par la Chine. Ils ont fait un test sur un de leurs vieux satellites. Ça a été un peu un coup de tonnerre dans un ciel bleu, on va dire, avec aussi comme conséquence d'avoir créé beaucoup de débris et d'avoir perturbé pas mal la vie spatiale. Mais surtout, ça a relancé un peu la tension. Les États-Unis ont fait une sorte de réponse un an plus tard. Et puis il se trouve qu'un an plus tard, alors il y a eu un autre phénomène qui s'est produit, celui la plus fortuite, la collision entre deux satellites. C'est la première fois qu'il y avait une collision avérée. Il s'est passé plus de choses en quelques années qu'il s'en était passé dans les 50 précédentes. Et à partir de là, les pays se sont rendus compte, parce qu'ils utilisaient de plus en plus leurs moyens satellitaires pour leurs opérations militaires dans leur système de défense, et bien que ces moyens, en tout cas les Américains le voient comme ça, peuvent devenir des cibles pour leur ennemi. Et donc, on a commencé à réfléchir dès les années 90 aux États-Unis aux moyens de protéger un peu plus ces cibles. Et donc, évidemment, on parle de concept défensif, mais aussi de concept offensif, préemptif, etc. Et donc là, on voit effectivement des programmes de recherche à ce stade qui sont parfois testés en orbite, mais de manière intranationale, je dirais, programmes de recherche pour faire des satellites qui viennent perturber d'autres satellites, des lasers au sol qui viennent éventuellement illuminer des satellites, voire les éblouir, voire perturber leur électronique. Enfin voilà, tout ce genre de choses, on commence à le voir arriver.
On parle par exemple des satellites kamikazes, hein, ces satellites tueurs de satellites.
Oui, oui, c'est ça.
Qu'on soupçonne la Russie de posséder.
Oui, oui, mais de manière tout à fait connue, l'Union soviétique à l'époque, entre 68 et 72 par exemple, a fait une première campagne de test de satellites co-orbitaux qui s'approchaient d'un autre satellite et qui explosaient à proximité pour le détruire.
Maintenant, on parle de Cosmos 2499.
Hein. Oui, alors il y a des satellites qui ont été lancés. Donc, comme on se regarde, on voit de plus en plus de choses. Alors, évidemment, il y a des satellites qui ont été lancés qui ont des comportements un peu bizarres. Donc, on imagine que ce sont des satellites qui font des choses. C'est jamais complètement prouvé. C'est très difficile de savoir ce qui se passe dans l'espace, d'attribuer des choses. Moi, ce que je dirais à ce stade, c'est que la tension s'accroît. Ça, c'est indubitable. La tension s'accroît et donc, effectivement, les systèmes de surveillance vont être de plus en plus performants et on va avoir, eh bien, une confrontation. Le rapport de force terrestre est en train de s'installer dans l'espace. On n'est pas au point d'en faire un champ de bataille aujourd'hui, c'est de l'intérêt de personne, mais on voit bien que la tension s'accroît.
Et du coup, en 2014, les Américains ont réagi en déployant un petit réseau de satellites chargés de surveiller les satellites, ce qui se passe en orbite.
Tout à fait, désormais, comme l'enjeu, comme le disait le colonel Masly, c'est de savoir de mieux en mieux ce qui se passe dans l'espace, mais on ne se suffit plus d'avoir des moyens au sol, jusque-là on regardait depuis le sol ce qui se passait, là on veut mettre des capteurs dans l'espace, et peut-être le colonel Masly peut-il compléter sur ce point, je pense.
Colonel Masly.
Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que le commandement intermédiaire de l'espace travaille depuis un certain nombre d'années de manière à pouvoir développer les opérations spatiales, justement. Nous affinons notre chaîne opérationnelle. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 avait déclaré que l'espace était un milieu potentiel de confrontation et depuis ce temps-là, nous travaillons sur le plan de la doctrine justement à améliorer notre chaîne opérationnelle de manière à ce que le commandement intermédiaire de l'espace puisse conseiller correctement le centre de planification et de conduite des opérations en cas de crise, justement, de menaces potentielles contre nos moyens spatiaux.
Benjamin Guyot, mais dans la mesure où tout le monde, grâce aux satellites, et il y en a de plus en plus, donc il y en aura de plus en plus, dans la mesure où tout le monde se surveille, est-ce qu'il n'y a pas une neutralisation des menaces? Est-ce qu'on ne s'inquiète pas un peu à tort?
Difficile de dire. C'est vrai qu'on s'observe et on perturbe les signaux. C'est surtout là que se trouvent les activités peut-être de défense ou militaire dans l'espace. Vous parliez avant des satellites kamikazes ou de l'idée de faire sauter un satellite près d'un autre satellite pour le détruire simplement. Ce serait une activité un peu stupide parce que ça met en danger ses propres systèmes.
Il y a oui, parce qu'après les débris peuvent tout à coup heurter votre propre satellite.
Absolument, il y a une sorte de réaction en chaîne. On l'a vu d'ailleurs dans les films qui sont parus assez
Gravity,
récemment.
Hein.
Gravity, par exemple, justement.
C'est d'ailleurs, cette réaction en chaîne porte un nom.
Oui, mais j'ai plus le nom là en tête.
Le syndrome
de Kessler.
Oui, le syndrome de Kessler, ouais, c'est cela. Et c'est un vrai problème, effectivement. Donc, la satellite explose, il crée des débris qui eux-mêmes détruisent un autre satellite, et les débris s'étendent, et ça crée une sorte de nuage dangereux et qui finalement pourrait annihiler n'importe quel système. Donc, c'est vrai que la défense aujourd'hui s'oriente plus sur la perturbation des signaux que sur des armes de destruction, même dans l'espace. Là, on parle d'un système qui soit encore en orbite. Du moment où on va au-delà de l'orbite, là, bien sûr, ce sera autre chose, mais on n'est pas là pour l'instant.
Donc ça veut dire que dans le futur, on pourra agir en toute impunité, sans être détecté, par exemple, dans le...
Mais c'est toujours la course du glaive et du bouclier, mais ça, c'est vieux comme, je dirais, les forces armées. Je pense quand même qu'il y a une responsabilité collective internationale, il y a une conscience de la responsabilité internationale, beaucoup de gens travaillent sur des systèmes plus transparents, des réglementations juridiques qui soient équitables. C'est pas perdu. Mais il faut s'habituer au fait que, bien, dès qu'on investit un nouveau milieu, c'est en train de se passer, bien évidemment, il y a les aspects militaires qui accompagnent cet investissement.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, Xavier Pascaud. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Colonel Masly, Benjamin Guyot et Xavier Pascaud. Donc, je renvoie nos auditeurs à votre livre, Le nouvel âge spatial de la guerre froide de New Space, aux éditions du CNRS. Merci à Véronique Durand qui m'a aidé à préparer cette émission, à Nathalie Laporte qui l'a réalisée, et à vous qui nous écoutez et pouvez nous écrire sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain.